avec Léo à l'occasion du festival Quai des Bulles de Saint-Malo 2013. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de la sortie de l'épisode 5 d'Antares dans les mondes d'Aldébaran. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est que Antares et puis la particularité de cet épisode 5 ?
Longue question. Parce que c'est une saga qui commençait avec Aldébaran, 5 tomes. Betelgeuse après 5 tomes. Et Antares, nous sommes en 5 tomes, il sera fini dans le 6e. Dans cette saga, on suit le personnage Kim. C'est une gamine qui habite dans une planète qui est Aldébaran, une planète qui la Terre est en train d'être colonisée. Et on suit les aventures et la vie de cette gamine qui, au début, elle a 13 ans, 14 ans, elle est une adolescente. Et là, Antares, elle est déjà adulte. Et on suit ses aventures dans différentes planètes. Aldébaran, c'est une planète, Betelgeuse, une autre planète, et Antares, une troisième planète. Et dans ce cinquième tome, on arrive un peu à la fin. Ce qui s'est passé d'important dans cette aventure d'Antares pour elle, c'est la disparition de sa fille. C'est une petite gamine qui a disparu d'une façon très bizarre, et emportée par un rayon lumineux, un truc incompréhensible. Et qu'il pense que dans cette planète Antares, ils vont trouver la réponse. Elle a la certitude qu'elle va retrouver sa fille là, dans cette planète, qui est une planète sauvage, complètement sauvage, inhospitalière même. Mais là, la certitude que sa fille est là, et on ne sait pas comment, c'est très mystérieux, quoi. Et dans ce cinquième tome, ils arrivent sur cette planète sauvage, étrange. Des choses bizarres arrivent, succèdent. Elle n'a pas encore retrouvé sa fille, mais il y a des signes qui donnent l'idée que peut-être oui, qu'elle va retrouver sa fille là, mais ça on verra dans le prochain tome, c'est la fin du cycle.
Est-ce qu'il y a déjà d'autres planètes que vous avez prévues pour continuer éventuellement l'aventure de Kim ou d'un autre personnage si jamais Kim ne continuait pas, ou est-ce que pour l'instant vous vous laissez la fin d'Antares et puis des survivants avant d'entamer un nouveau cycle?
Forcément, quand on commence à arriver à la fin du cycle, là on commence à penser à qu'est-ce qu'on va faire de la suite, et là j'hésite encore beaucoup. Je voulais pas répéter encore une fois le même chemin, de passer vers une autre planète, recommencer à zéro dans une autre planète. Et je vais peut-être faire un peu différent. Et je sais pas encore, de rester sur Antares par exemple, parce que j'ai soulevé beaucoup de choses bizarres dans cette planète qui j'ai traité en passant comme ça. Et je voulais peut-être laisser Kim sur cette planète pour pouvoir exploiter ce genre de choses plus calmement. Mais j'ai le temps encore. Pour dessiner le sixième tome, ça va être d'ici, j'ai 2 ans quoi, devant moi pour décider comment faire. Mais successif, je ne peux pas m'arrêter. Je vais garder Kim et faire d'autres aventures, quoi. Et justement, comme j'ai fait parallèlement l'histoire du survivant avec ces autres personnages nouveaux, et j'ai aussi envie de peut-être mélanger les deux, des choses, je ne sais pas. C'est un truc qui... En ce moment, justement, je suis en train de réfléchir à tout ça. Je n'ai pas encore les réponses.
Est-ce que vous avez des réponses à tout ? Parce qu'il y a plein de choses mystérieuses. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez simplement mis des éléments pour avoir un ressort narratif, piquer au vif l'intérêt du lecteur ? Est-ce que vous avez toutes les réponses ? Par exemple, est-ce qu'on sait comment est-ce que la petite boule fonctionne ? Tout ça.
En général, oui, quand je lance la chose, j'ai l'explication. Même si parfois l'explication n'est pas encore très élaborée, mais je sais comment je vais expliquer à la fin si on me pose la question. Parfois on lance des idées comme ça, parfois même au moment d'écrire, il y a une inspiration, on dit, waouh, si on lance ça, peut-être sur le moment on n'a aucune explication, mais après les soirs je commence à penser, je me réveille la nuit en pensant, non, il faut ceci, peut-être on explique comme cela, et je trouve toujours l'explication.
Sur Antares, je trouve qu'on a beaucoup d'animaux extraordinaires qui sont inspirés plutôt d'insectes et peut-être un peu d'animaux marins, mais pas énormément de mammifères, même si là on a des oiseaux dans ce tome-là qui sont un peu forts quand ils apparaissent, mais est-ce que c'est voulu d'avoir plutôt certains types d'animaux en fonction des planètes ?
Non, c'est accidentel comme ça. Ça vient au moment d'écrire, par exemple, j'ai besoin de tel ou tel type de bête. Parfois, en écrivant, j'ai déjà un peu la bête dans ma tête. Je sais à peu près comment je vais la dessiner. Parfois, pas du tout. Parfois, j'ai besoin d'une bête étrange, une bête effrayante, mais je sais pas du tout comment la faire. Et au moment de dessiner, je commence à chercher la forme. Et parfois, par exemple, les insectes, c'est une source très bonne d'inspiration. Ce sont des formes bizarroïdes, horribles, étranges. Si on grossit un insecte, c'est toujours un truc énorme et étrange. Je mélange insectes, animaux, animaux marins de profondeur aussi, que c'est un truc impressionnant. Dinosaures, mélange tout. Et là, c'est accidentel. Si tu vois plus de trucs insectoïdes, là, c'est pas accident, quoi.
Du coup, quelle planète vous aimeriez plus explorer, peut-être parmi les trois principales, ou est-ce que vous préféreriez rester sur Terre, finalement?
Dans cette époque-là, je montre la Terre assez peu, la Terre, mais la Terre est déjà polluée, superplate et tout. Aujourd'hui, c'est déjà un peu ça, non? C'est sûrement Aldebaran, c'était la planète la plus cool, la plus semblable. Quand je me suis inspiré pour faire l'ambiance d'Aldebaran, j'ai pris mes expériences brésiliennes, mon enfance à Rio, au bord de la mer de cette région de Rio, c'est forêt vierge, exubérante, et la mer, et plage au sable blanc, cocotier, ce truc, c'est pour moi, c'est mon truc naturel, ce truc, c'est ça, c'est très beau, quoi. Et dans Aldebaran, il y a ces paysages-là, il y a encore vierge, encore pas de nature, comme aujourd'hui, par exemple, à Rio, c'est la côte entre Rio et São Paulo, c'est la côte très belle, mais déjà avec une population énorme, exploitation énorme, touristique, pollution, l'immobilier qui envahit, comme partout, non? Alors, dans Aldebaran, c'est encore vierge, jolie, sauvage, peut-être c'était la planète la plus agréable.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, ça peut s'apaiser au niveau des humains? Parce que à chaque fois, là, dans les différentes planètes ou dans les différentes structures qu'on voit sur les planètes, tout de suite, il y a des personnalités très fortes qui prennent le pouvoir et qui vont quand même remettre des choses pas très agréables. Alors, c'était déjà ce qui a entraîné la fuite de la Terre, puisque c'est devenu une planète invivable. Et là, dans vos différents mondes, à chaque fois, c'est des personnalité pas très sympathique. Est-ce qu'à un moment donné, les humains vont s'apaiser?
Là, on a besoin de méchants, non, pour faire que l'histoire avance, pour faire que l'histoire soit une tension. On a besoin d'une tension, non? Et là, il faut toujours mettre un méchant. Si tout le monde était sympathique là, avec le groupe, ça, l'histoire perd un peu sa vigueur. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de confronter Kim et ses amis, qui sont des gens sympathiques, avec un groupe qui est antipathique. Ça me permet aussi de critiquer des choses d'aujourd'hui, des choses qui me gênent. Et quand je choisis mes méchants, je choisis les gens, les types des gens que je déteste. Et ça, c'est un exutoire très, très, très agréable à faire. Et c'est une façon de, je sais pas de passer le message, une façon de montrer qu'est-ce que c'est pour moi des gens sympathiques, c'est le King, ses amis, par rapport à des gens qui sont pas très sympathiques, comme méchants, et qu'on voit dans tous les jours, ça, on voit tout de nous, quoi, c'est ça, non? Dans l'Antares, par exemple, c'est malade mental qui sont méchants. Comme on dit, les religieux, là, de cette secte, ce mec, c'est qui t'arrive insupportable, on voit pas autant que j'exagère un peu dans mon histoire, mais on voit des choses très proches, hein, très proches. On voit certaines déclarations qu'on voit dans les journaux et tout, c'est impressionnant. Il y a des gens dans le siècle 21 qui pensent comme ça, c'est pas possible, sur les femmes, Là, ils exagèrent ça pour pouvoir un peu, c'est même méchant, quoi. Dans Betelgeuse, par exemple, c'était le mec comme ça, à l'époque, je me souviens, c'était l'effet que Bush ait gagné deux fois l'élection. Quand Bush a gagné la deuxième fois, j'étais complètement choqué. C'est pas possible. La première fois, je m'en souviens que c'était un accident de l'histoire américaine. Ils ont réglé ce mec, c'est pas possible. Et là, j'ai fait mon méchant un peu semblable à Bush, physiquement. C'est mon privilège, hein, soyez méchants, après les écrases, après les histoires.
Du coup, c'est vraiment important d'avoir la possibilité d'être au dessin et au scénario, parce que ça vous permet d'exprimer encore plus vos idées.
Ah oui, c'est une liberté énorme, c'est vraiment... C'est, le plus fort, justement, c'est pouvoir faire une histoire... Et même le couleur, là, c'est moi qui fais, quoi. Ça donne une liberté totale, c'est un privilège. Mais quand je fais des histoires avec d'autres personnes, c'est autre chose, c'est étrange, parce que l'histoire que j'ai fait avec Rodolphe, par exemple, je suis incapable de faire tout seul. Et je pense que lui aussi, c'est incapable de faire la même chose tout seul. Et le mélange de deux imaginaires, deux façons de voir les choses, bien sûr, on a des coïncidences, sinon on peut pas travailler ensemble, on est d'accord sur beaucoup de choses. Une façon de voir la vie, tout ça, mais lier deux imaginaires différents comme ça, c'est une expérience très, très, très intéressante, quoi. Ici, en plus, le dessinateur, c'est pas moi, c'est un autre mec qui dessine, c'est une autre expérience. Parce qu'on écrit, moi, j'écris imaginant la scène, imaginant la case, et quand je vois comment il l'a fait, c'est, oh, je vais pas poser ça, c'est pas mal du tout. Enfin, quand il crée un personnage différent du mien, c'est notre imaginaire qui se mêle comme ça, et ça fait une autre histoire complètement différente. C'est une très bonne expérience, très intéressante, quoi.
Vous n'avez pas envie de retoucher, ou vous interdisez de retoucher, ou au contraire, vous êtes super content à chaque fois, donc pas besoin d'intervenir?
Ça dépend du dessinateur. Il y a des dessinateurs qui demandent beaucoup. Il demande, il pose la question, il y a d'autres dessinateurs qui sont très sûrs d'eux, quoi, qui sont très bons. J'ose pas intervenir parce que c'est super, quoi, des choses qui. Bon, ça dépend. Parfois, je suis impressionné par la façon dont le dessinateur a fait. J'ose pas intervenir, quoi. J'ai une résistance à intervenir. C'est son truc à lui, non? Sauf son contraire en défaut que je vois, en défaut anatomique, un truc comme ça, j'ai plus d'expérience que lui. Voilà, je dis, écoute, ton bras là, il est trop long, ce genre de choses. Des choses comme ça, des erreurs, quoi. Pas la façon de faire. Là, il a sa liberté, quoi.
Est-ce que vous avez aussi la main mise sur les couvertures? C'est vous qui choisissez la couverture et qui êtes décisionnel sur la couverture finale?
La couverture, c'est très compliqué. C'est moi qui invente, oui, c'est moi qui propose la couverture. Et en général, c'est les dessinateurs qui proposent la couverture. Par exemple, quand c'est d'autres dessinateurs qui dessinent, moi et Rodolphe font le sujet, c'est lui qui propose. Parfois, il demande, j'ai aucune idée de couverture, aidez-moi. Par exemple, dans mon cas, je propose la couverture, j'envoie chez Dargo, et là, il montre aux gens de Dargo, qui implique les gens qui travaillent dans les dessins chez Dargo, des studios de dessin, et les commerciaux, le marketing, les gens qui connaissent la BD du côté commercial, et parfois ils disent, ah génial, ah belle couverture, génial, et là c'est le rêve. Parfois ils disent, on n'a pas aimé. Mais pourquoi? Je sais pas, les gens de marketing, ils n'ont pas aimé du tout. Mais pourquoi? C'est génial ma couverture. Ah non, non. Et ça, si les gens n'aiment pas chez Dargo, il faut changer la couverture. Parfois je sais pas pourquoi ils n'ont pas aimé, c'est un truc inexplicable.
Et pour ce tome 5 de Antares, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé?
C'est bien passé. C'est étrange. Dès le départ, il était étrange. Mais par exemple, ils avaient proposé, j'avais fait des dessins sans la lettre Antares. Ils sont eux qui ont proposé, ils sont très bons graphistes, à propos de la couleur. Ils avaient proposé rouge, la lettre rouge. Et dans ma tête, quand j'étais en train de dessiner, j'avais cette couleur-là, j'imaginais la lettre de cette couleur. Et j'ai parlé avec eux, ils disent, écoute, fais un essai avec cette couleur bleue, là. J'ai presque plus percutant. Ils ont fait, ils m'ont envoyé, et je regardais, ah, génial, un bleu. Je préfère un bleu. Et je parle avec eux, ils disent, nous, on préfère un rouge. Ah, c'est pas possible. Un bleu, c'est génial, tu vois. Entre nous, on préfère un rouge. Et à la fin, j'ai gagné passer l'auteur. Et l'auteur, s'y bloque, l'auteur gagne, ok. Alors, il s'est beau, un bleu, là. Voilà.
Si on vous permettait d'adopter en animal de compagnie une des quatre créatures qu'on va vous proposer, laquelle vous prenez? Vous avez le choix entre la chenille de Alice au Pays des Merveilles, le Gremlins, l'alien du film de Ridley Scott, ou un phénix. Comme animal de compagnie, vous prenez quoi?
Animal de compagnie, écoute, l'alien, c'est un animal horrible, bien sûr, mais il a été si bien fait, il m'a impressionné énormément, et c'est toute la façon dont il a été exploité dans le premier film, non? On les voit pas très, on les voit pas trop. On les voit comme ça par bribes, ça fait, c'est incroyable. Et cette forme que j'ai à faire, c'est tout une forme incroyable. C'est un truc. Alors, comme on a mal compris, c'est un peu effrayant, mais je l'aurais comme ça dans une cage, comme ça, tu vois. Bien fermé, mais tu peux regarder de temps en temps comme ça, c'est une forme incroyable. Va pour l'alien. Okay.